Bien évidemment, sur un salon comme Formasart, il faut prendre en compte toutes les situations possibles et imaginables que des jeunes peuvent rencontrer en matière d'orientation et de formation. La situation de handicap crée évidemment un contexte un peu particulier et évidemment, il est important que les structures qui travaillent dans ce domaine soient présentes ici pour montrer comment elles travaillent, quelle est leur offre, quelle est l'assistance, l'aide, le conseil qu'ils peuvent éventuellement apporter. Alors, on est allé vers ce pôle information handicap présent sur ce salon Formasart et nous avons pu extraire trois représentants de ce pôle. Nous avons d'abord Alexandre Tabot qui est donc représentant de l'action menée à l'université en direction du handicap. On reviendra tout à l'heure sur les détails. Nous avons également avec nous Pascal Aspe qui est directeur d'établissements de médico-sociaux donc sur ce secteur du Mans. Hein, il nous expliquera également quel est le public avec lequel donc il travaille. Et puis également Nathalie Bavasseur qui est coordinatrice sur les démarches d'apprentissage. Vous exercez directement donc sur le site du CFA de la Chambre de commerce et vous travaillez pour une mission départementale dont vous nous expliquerez la vocation dans quelques instants. C'est avec Alexandre Tabot que nous allons commencer. Vous êtes étudiant.
Oui, je prépare mes concours d'entrée dans la fonction publique. Et avant, j'avais fait une licence d'éco-gestion à la fac du Mans.
Donc vous êtes sur l'université du Maine, hein ?
Oui, voilà.
Alors, nous sommes en radio, donc nous ne voyons pas directement la situation. Vous êtes ici donc en fauteuil.
En fauteuil
alors,
électrique.
Alors, quand vous êtes rentré à l'université, est-ce que le fait d'être ainsi en fauteuil posait des problèmes concrets ou pas ?
Ben, je suis rentré en GEA, en gestion des entreprises et administrations. Donc, les bâtiments étaient neufs, donc adaptés. Donc ça n'a pas posé de problème au niveau accessibilité. Et puis la fac est équipée d'un service, d'un relais handicap qui aide à mettre en place des adaptations de cours et puis pour les examens.
Alors ici sur Formasart, vous parlez un peu de ce relais handicap de l'université, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. C'est le relais qui prend en charge les étudiants en situation de handicap de tout type et qui fait un peu le relais entre tous les UFR, toutes les filières pour adapter au mieux le cursus de l'étudiant pour que ses études se passent bien, donc soit par des aides humaines, soit par des aides techniques ou des adaptations d'examen comme le tiers-temps supplémentaire ou la présence d'un secrétaire pour ceux qui en ont besoin.
Donc toutes les formes d'aménagement possibles, vous pouvez les suggérer.
Oui.
On vient vous voir sur ce relais de façon volontaire. C'est un service permanent avec un bureau permanent.
Oui, c'est un service permanent avec un bureau permanent où il y a donc on peut venir, c'est près de la bibliothèque universitaire, on peut venir aux heures d'ouverture qui sont très grande en fait, quasiment tous les jours. Et sinon, il y a une adresse mail ou un numéro de téléphone. Donc,
vous êtes également représentant d'une association ?
Oui, membre d'une toute jeune association, donc Handicampus, qui elle vient en soutien au relais handicap, plus pour parler de la vie étudiante en dehors
des
de
cours même.
Cours, oui. Qui promeut donc l'accessibilité. L'accessibilité des étudiants aux activités extra-scolaires, si j'ose dire, et la sensibilisation des autres étudiants aux situations de handicap.
En termes de logement étudiant, par exemple, est-ce qu'il y a des infrastructures qui sont pensées pour accueillir particulièrement des étudiants en situation de handicap ?
Oui, on a deux résidences universitaires sur la fac et chacune d'elles a quatre chambres spécialement pensées pour accueillir des personnes en situation de handicap.
Ça répond aux besoins ou est-ce qu'il y a plus de demandes, plus d'attentes ?
Alors, ça répond aux besoins puisque elles sont pensées plus pour les personnes en situation de fauteuil, donc difficulté moteur. Donc ça répond aux besoins puisqu'on n'est pas beaucoup. La majorité des handicaps, c'est plutôt d'autres types, visuels, auditifs, sensoriels, qui eux n'ont pas besoin de ce type d'adaptation.
Et au niveau des cursus scolaires, est-ce qu'il y a des adaptations particulières liées à des situations particulières de handicap? Est-ce que l'université prend ça en compte?
Oui, elle prend ça en compte puisque pour un handicap donné, si l'étudiant a besoin, par exemple, d'étaler son cursus au lieu de faire sa première année en filière de GEA, elle peut le faire en deuxième année, en 2 ans au lieu d'un an. On peut s'adapter au rythme d'apprentissage de l'étudiant.
Très bien, donc on le voit, une préoccupation pour accueillir dans les meilleures conditions les possibilités d'études pour les étudiants donc en situation de handicap. Côté Université du Maine, donc ça fonctionne plutôt bien.
Ça fonctionne plutôt bien, sachant que pour les prises de notes qu'on peut avoir au lycée en AVS, en auxiliaire de vie scolaire, en fait, l'université prône plutôt que ce soit la participation d'autres étudiants rémunérés par la faculté pour prendre les notes. Comme ça favorise l'insertion de l'étudiant dans le monde universitaire.
Très bien, merci Alexandre Thabot pour ce témoignage concernant l'université. Pascal Asp, c'est des jeunes plutôt entre 6 et 20 ans voilà. Dont vous vous occupez. Expliquez-nous quels sont les établissements que vous dirigez.
Alors, les établissements que je dirige sont de deux natures principales, des instituts médico-éducatifs qui accompagnent dans des bâtiments des jeunes qui bénéficient d'un triple accompagnement. Un accompagnement pédagogique, les enfants et les jeunes vont en classe. Un accompagnement à partir de 14 ans, un accompagnement pré-professionnel, où nous commençons à initier les jeunes aux premières techniques professionnelles et en même temps, on développe avec eux leurs compétences dans les savoir-faire et savoir-être au travail. Et un troisième aspect qui est... qui identifie le secteur médico-social, c'est un accès aux thérapeutiques. C'est-à-dire que les jeunes sont accompagnés sur un plan thérapeutique, soit par les soutiens psychologiques, psychiatriques, soit avec des rééducations ou une intrication de ces actions thérapeutiques. Et l'identité du secteur médico-social, c'est l'interaction de ces trois champs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques qui font que ces jeunes puissent développer au mieux toutes leurs compétences. Parce que le troisième trépied de l'action conduite dans le secteur médico-social, c'est l'action éducative. Voilà. Avec un soutien en direction des jeunes et de leurs familles.
L'une des difficultés, on suppose, par rapport à l'accueil de jeunes en situation de handicap, c'est la diversité justement des handicaps. Comment vous vous organisez pour pouvoir répondre à une attente qui est, par définition, totalement diversifiée?
Alors, pour préciser la nature du handicap auquel nous nous adressons, ce sont des enfants et adolescents et jeunes adultes en situation de handicap mental. Et la particularité des enfants en situation de handicap mental, c'est que certes, ils apprennent lentement, mais ils apprennent longtemps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans les modalités d'accompagnement de ces jeunes-là. Et donc, effectivement, la notion de handicap mental, c'est une sorte de boîte dans laquelle nous mettons toutes les sortes de handicap mental. Vous avez des jeunes qui sont particulièrement déficitaires. Et cela ne relève pas, effectivement, de l'objet de Formasart. Ils auront des orientations et ils auront plus tard, dans le milieu adulte, des orientations vers des structures adultes adaptées à leur situation. En revanche, l'intérêt de Formasart pour nous, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont un handicap mental, une situation de handicap mental plutôt légère. Et ce qui est proposé dans la grosse différence entre l'éducation nationale et le médico-social, il y en a deux, c'est que d'une part, les groupes auxquels nous nous adressons sont restreints, 6, 8 enfants, alors que élèves, alors que dans une, à l'éducation nationale, ils ont des classes de 20-25, voilà. Et c'est cette alliance que je vous disais tout à l'heure, de, du thérapeutique, du pédagogique et de l'éducatif qui fait qu'on peut accompagner. Donc, à la sortie, tous ces jeunes qui peuvent accéder au monde du travail, nous développons un parcours de formation qui va alterner des périodes de formation en interne à l'établissement et en externe chez un certain nombre d'employeurs qui sont complètement impliqués dans la démarche.
Donc on a bien compris les vocations multiples que vous poursuivez. Est-ce que les capacités d'accueil d'un département comme la Sarthe sont suffisantes ou est-ce que ça peut encore être amélioré?
Alors, pour ces jeunes-là, il y a actuellement, pour les jeunes de 6 à 20 ans, en institut médico-éducatif, il y a environ 700 places. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que globalement, certes, il y a encore quelques jeunes qui sont en liste d'attente pour intégrer les instituts médico-éducatifs, mais cette liste d'attente tend depuis plusieurs années, depuis 2 ans, à se réduire sensiblement, parce qu'il y a un nouveau service dont je vous parlais tout à l'heure qui vient de se mettre en place. Il y a une troisième action qui est conduite aussi dans le cadre de la formation proposée à des jeunes en situation de handicap mental, c'est que ces jeunes qui commencent à entrer dans le monde du travail ordinaire peuvent sortir des instituts médico-éducatifs et bénéficier d'un service, d'éducation spéciale et de soins à domicile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le CESAT Trimaran, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, qui va pouvoir prendre le relais et accompagner le jeune, toujours avec le même trépied, éducatif, pédagogique. Alors là, ce sera le CFA qui assurera la vocation pédagogique et bien sûr son maître d'apprentissage, et thérapeutique, puisqu'il y aura le soutien de psychologues et de rééducation si tant est qu'il en ait besoin.
D'accord, voilà. Vous avez bien expliqué, je pense, effectivement, comment tout ça s'installe finalement dans la durée et de façon suivie. Nathalie Bavasseur, vous êtes coordinatrice sur les démarches d'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est aussi en termes de développement actuellement pour les personnes en situation de handicap.
Alors cette démarche-là, elle a été mise en place en 1993, donc elle date
Ça
fait 20 ans. Et l'objectif du Conseil régional et de la GFIP a été d'ouvrir l'ensemble de l'offre en apprentissage.
Alors, rappelez-nous ce qu'est la GFIP.
L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle. C'est un organisme qui collecte des fonds et qui les redistribue en faveur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc AGFIP et Conseil régional ont décidé qu'il n'y aurait pas sur la région des Pays de Loire de CFA spécialisé, mais que c'est l'ensemble de l'offre d'apprentissage qui était ouverte aux personnes en situation de handicap. Et la particularité, c'est qu'avec une reconnaissance travailleur handicapé, on peut signer un contrat d'apprentissage à tout âge, alors que normalement, c'est limité aux personnes de moins de 26 ans.
Donc, toute la vie, c'est possible ?
Toute la vie, c'est possible. À partir du moment où la personne va avoir un projet professionnel validé, et puis en amont, travailler ce projet-là, vérifier l'accessibilité, identifier les moyens de compensation dont ils pouvaient avoir besoin. Et ainsi, on a des jeunes qui viennent d'IME, qui arrivent en apprentissage et qui vont pouvoir effectivement avoir des accompagnements sur leur parcours de type CESAD. C'est magique quand ça peut se mettre en place, effectivement, le service d'éducation et de soins spécialisés à domicile dont M. Aspe parlait.
Mais limité, je suppose, pour des raisons budgétaires, ça peut par contre toucher tout le monde.
Il faut que les jeunes bénéficient d'une reconnaissance de handicap.
Et que la MDPH est
uniquement.
Oui.
Et que la MDPH ait notifié une orientation vers ce service-là et qu'effectivement des places disponibles se présentent. Et parmi les apprentis, certains bénéficient de ces accompagnements-là, d'autres n'en ont pas besoin et d'autres en auraient besoin mais attendent des places.
Alors comment vous travaillez-vous sur cette coordination ?
Moi, je suis une facilitatrice, c'est-à-dire que j'ai pas les réponses à toutes les questions, j'essaye de les trouver autour des situations de chaque jeune. L'idée, c'est de travailler en lien avec les établissements où sont les personnes avant d'avoir le projet d'être en apprentissage. Donc pour les jeunes, ça peut être les ULIS, ce sont des unités locales d'inclusion scolaire portées par les collèges. Ça peut être les ULIS Pro, l'équivalent pour les lycées professionnels. Ça peut être des jeunes d'IME. Et puis ça peut être des jeunes de classe ordinaire, des jeunes qui sont intégrés dans des classes ordinaires. Il peut y avoir certains adultes qui pensent à l'apprentissage comme moyen effectivement d'acquérir des qualifications qui leur permettront d'aller vers l'insertion professionnelle. travaille en lien avec les services d'accompagnement, en lien avec les centres de formation d'apprentis qui vont être porteurs des parcours des apprentis, en lien avec les services d'accompagnement de mission locale, Cap Emploi. Cap Emploi étant une structure qui accompagne les adultes demandeurs d'emploi et en situation de handicap pour essayer effectivement de faciliter l'arrivée vers l'apprentissage, en sachant que l'apprentissage est une solution, mais pas la solution, est une solution pour certaines personnes, mais pas forcément la solution pour tous.
Pour les entreprises qui accueillent, est-ce que c'est toujours facile ?
Non, c'est pas facile. Alors, le milieu ordinaire n'est que ordinaire. Les centres de formation n'ont pas la formation initiale pour prendre en compte le handicap. Les entreprises ont besoin, elles aussi, d'être accompagnées.
Ça fait partie aussi de vos fonctions ?
Pas directement. J'aimerais pouvoir le faire. Je ne sais pas forcément faire ça. Donc, les CESAD vont avoir cette vocation aussi, je pars sous le contrôle de M. Asp, de pouvoir effectivement accompagner aussi bien la famille, le jeune, mais aussi le milieu dans lequel le jeune va arriver, qui va avoir besoin d'être guidé un petit peu sur les adaptations qui peuvent être mises en place. Il y a des professionnels qu'on peut mobiliser, des experts qui vont pouvoir dire, voilà, ce jeune-là, dans cette situation-là, a besoin de tel ou tel moyen de compensation, et guider effectivement la mise en place de ces moyens de compensation. Je pourrais parler pendant longtemps.
Voilà, mais justement, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Vous l'avez bien compris. En tout cas, vous nous avez donné vraiment les éléments importants pour qu'on puisse bien comprendre cette situation donc, du soutien, finalement, par rapport au handicap dans la formation, l'orientation, l'insertion, hein, comme
tous
vous venez
métiers,
de dire.
Tous les métiers, tous les diplômes. Après, il faut effectivement s'entourer des personnes qui vont pouvoir conseiller pour que le parcours soit adapté.
Voilà, ce qui est le cas de vous tous, finalement. Alexandre Tabot avec le relais handicap à l'université. Pascal Asp, par le biais, évidemment, de toutes les formations dispensées dans les IME, par exemple, que vous dirigez ici sur Le Mans. Et Nathalie Vasseur par cette fonction donc, de coordinatrice pour la GFIP et le conseil régional pour aider vers la démarche d'apprentissage.
Moi, ce que j'aurais aimé dire, c'est ne restez pas tout seul si vous avez des questions. Venez vers nous, venez vers les interlocuteurs, effectivement, qui pourront vous guider. Mais restez pas tout seul.
Est-ce qu'il y a un site internet, par exemple, fédérateur ou
Pour ce qui me concerne, vous avez le site de l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la SAR, donne déjà un grand nombre d'informations à la fois dans le cadre de son association, mais qui est ouverte sur son environnement. Et je voudrais juste faire un petit rajout qui est très important et qui va permettre de faire comprendre aux auditeurs que la liste d'attente pour intégrer les IME s'est considérablement réduite, puisqu'on est passé de 70 il y a 3 ans à peine 40 au mois de septembre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de jeunes qui étaient en liste d'attente au mois de septembre 2013 et qui sont en liste d'attente aujourd'hui pour intégrer un IME en mois de janvier 2014. L'association, l'ADAPI de la Sarthe, donc l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales, a remporté un appel à projet et qui permet à des jeunes de 20 ans, enfin de 18 ans même, orientés vers un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, de bénéficier d'un nouveau service qui vient de se mettre en place, qui est une sorte de transition entre la sortie de l'Institut médico-éducatif et l'intégration dans le monde du travail protégé. Et c'est ce service s'appelle APIX, ça veut dire Association pour l'insertion citoyenne et solidaire. Et ce service permet à des jeunes d'avoir cette transition, et ce service va prendre en considération non seulement l'intégration dans le monde du travail protégé, mais aussi sa situation relative à ses soins, relative à son projet d'habitat, parce que quand on va travailler, il faut loger quelque part, et aussi poursuivre sa formation professionnelle.
Voilà, très bien. On vous remercie Alexandre Tabot, Pascal Asp et Nathalie Bavasseur pour votre intervention. Je rappelle que vous représentiez ici le pôle information handicap sur Formasart. Merci à vous.